c'est la titanesque mission.
Une coproduction Titan Radio BLV.
Salut, salut, vous êtes dans la titanesque émission numéro 27. Et oui, c'est l'âge de raison, 27 ans. Ah, mais c'est pas là où il y a plein de gens qui sont morts. Des stars.
Je sais pas,
c'est
du tout.
Une histoire
oui,
comme
oui,
ça
c'est ça, oui, hein, complètement. Oui, oui.
Voilà, où il y a des gens qui s'imaginent des choses sur le fait d'avoir 27 ans. Oui. Et ben nous, comme on est déjà des survivantes, on craint rien. Donc...
Sauf moi.
Comment ça, t'es pas une survivante, toi? Ou tu crains?
J'ai pas encore 27 ans.
Ah oui, mais il va rien t'arriver, oula, mais toi t'es féministe et pff, t'es journaliste depuis que t'as quel âge, Oxane?
6 ans.
Bah alors, tu vois bien, t'as quel âge maintenant?
13.
Eh bah bon anniversaire.
Merci. Hein,
et puis bah quand t'auras le double, bah tu seras encore journaliste, mais je sais pas où, tu vas déchirer quelque part, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci de continuer à être avec nous pour présenter ta chronique jeunesse.
Plaisir.
Et puis, il y a aussi Cathy aujourd'hui, Cathy du Witch Blog, qui est venue nous parler du 25 novembre.
C'est ça, bonjour.
Parce qu'il y a toujours des féminicides, il y a toujours des viols et des agressions sexuelles massives, même en France, et ça ne va pas. Voilà, on en parle, donc on en parlera avec Cathy tout à l'heure. Et puis, bah, bien sûr, il y a Ditel, parce que Ditel et moi, Kat, et bah, on co-anime cette émission pour mon plus grand plaisir. Donc ce coup-ci, c'est mon tour de parler plus ou d'avoir préparé plus ou je ne sais pas, mais voilà.
Bonjour.
Et Ditel, bah, elle a un avantage énorme sur moi, c'est que cette émission est consacrée au sport et que toi, tu fais du sport.
Exactement. Par contre, le désavantage, c'est que je n'ai absolument pas suivi la préparation de cette émission.
Mais c'est pas grave, parce que comme tu fais du sport et comme tu es féministe, bah, tu as forcément des trucs
carrément
à dire. Et puis, il y a avec nous Lucie, depuis Paris. Salut, Lucie.
Salut.
Et toi aussi, le sport, ça te connaît?
Eh oui, j'adore le sport.
Laisse-moi te chanter. Poli pour la télé, mais va te faire en...
Lucie, tu voulais commencer ta chronique par nous parler d'une sportive, bien sûr.
Tout à fait. J'avais envie de parler de Courtney Dolwater. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est elle qui m'a motivée à écrire cette chronique parce que j'avoue que j'étais en train de procrastiner depuis 10 jours. Et puis là, je vois Courtney Dolwater sur les réseaux sociaux. Donc, ultra-traileuse américaine de 37 ans qu'on peut qualifiée de pionnière, puisque le 22 octobre 2022, elle est devenue la première femme à entrer dans le top 5 au Scratch. Donc le Scratch, c'est un classement hommes et femmes confondus de la Diagonale des Fous, qui est un ultra-trail qui est considéré comme l'un des plus durs du monde, de 165 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif, et qui se déroule chaque année à La Réunion. Donc elle a terminé quatrième de la course en 24 heures et 37 minutes. Donc oui, il y a des gens qui courent 24 heures d'affilée.
Mon respect est total et ma bouche se décroche, moi qui n'arrive même pas à courir une heure.
C'est insane.
C'est fou complètement. Et c'est du coup une super performance qui fait aussi d'elle la première femme et le deuxième être humain sur cette terre, parce qu'il n'y a qu'un seul ultra-trailer qui a réussi avant elle, qui s'appelle Kylian Jornet, à remporter le Grand Chelem, donc en fait les quatre ultra-trails les plus difficiles au monde. L'Ultra Trail du Mont Blanc, la mythique Hard Rock dans le Colorado, le Collegiate Loop également dans le Colorado. Et donc là, on peut préciser qu'elle a par ailleurs réalisé le record hommes et femmes confondus en septembre, et donc la Diagonale des Fous. Donc bref, je trouvais que ça méritait bien un coucou dans la titanesque émission, parce que quand même, c'est la grande classe. Et puis Courtney Dolwater tombait à pic pour introduire aussi la chronique, parce que cette chronique porte aujourd'hui sur la question: est-ce que la séparation en catégorie de sexe, donc hommes et femmes dans le sport, est pertinente partout et tout le temps?
Alors, avant de rebondir sur la suite, parce que effectivement c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, je vois Ditel qui donc est une sportive, elle qui court, j'ai l'impression que toi, ça t'impressionne encore plus.
Eh ben ouais, c'est super impressionnant, et puis on entend tellement dans le domaine sportif, oui, mais de toute façon, les hommes, ils ont un corps qui est plus fort que les femmes, donc les meilleurs hommes seront forcément plus forts que les femmes. Donc, waouh, chapeau, ouais, trop cool.
Chapeau, bah, je ne connaissais pas le nom non plus. Oxane, tu la connaissais, toi ?
Non plus.
Mais tu t'intéresses au sport ou pas, toi, au fait ?
Ça dépend, quoi.
D'accord, et toi, Cathy, tu la connaissais ?
Non, pas du tout.
Non, bah, alors, écoute, merci, Lucie, de nous l'avoir fait connaître. Du coup, même, j'irai chercher une photo et je lirai des choses sur sa vie parce que cette dame, quand même, c'est extraordinaire ce qu'elle a fait. Est-ce que tu peux quand même préciser ce que c'est ultra trail ? C'est quand on court en marchant en montagne, c'est ça ? Enfin, on court en
Alors, le trail, effectivement, c'est une des courses en montagne la plupart du temps. C'est pas toujours en montagne, mais il y a quand même une question de dénivelé. Et donc, du coup, plutôt sur des chemins, trail en anglais. Et ultra trail, donc, ce sont ces trails qui durent 10, 15, 20 heures. C'est les trails les plus difficiles.
D'accord. Et ben, respect à Courtney Dolwater. Et revenons donc au mouton qu'elle introduisait, qui était que le sport reste un des domaines de la société où la non-mixité, tu me disais, est la plus explicite et même assumée. Là où partout, on va dire, il faut que ce soit mixte, dans le sport, eh ben non, c'est hommes et femmes séparés.
Ouais, absolument. En fait, c'est une non-mixité du coup qu'on qualifie d'imposée. Mmh. Et elle est très rarement remise en question parce que le sport renvoie directement au corps et que le corps renvoie au biologique. Et donc, on suppose qu'il y a une séparation logique en deux catégories, femmes et hommes, des catégories qui sont bien définies, qui sont hiérarchisées, et tout ça sous couvert de différences biologiques, dit-elle, en fait, soi-disant des différences qui amèneraient à des différences de performance et qui seraient irréductibles. Sauf qu'en fait, bien sûr, quand on regarde un peu plus en détail, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. Du coup, je me base notamment sur un petit article de l'université Grenoble-Alpes s'appelle « Les hommes plus performants que les femmes, oui, mais en moyenne ».
Vive Grenoble !
Vive Grenoble, disons-le !
Absolument, vive Grenoble !
C'est notre université, Grenoble et Valence. Merci de la citer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude de l'UGA, on dit ici ? Waouh !
Exactement. Donc, en fait, l'article dit que les meilleures performances féminines arrivent généralement à 90% des records masculins, avec une limite donc qui semble, comme on disait, biologiquement indépassable. Sauf que on apporte rapidement des nuances à cette idée-là, à commencer par le fait que c'est peut-être pas pertinent pour tous les sports. Et l'article explique que ce qui est en jeu, c'est le rapport entre masse musculaire et masse grasse, avec des hommes qui, en moyenne, ont davantage de masse musculaire que les femmes, et des femmes qui, en moyenne, ont davantage de masse grasse que les hommes. Alors, vous verrez que ce « en moyenne » compte beaucoup dans l'argumentaire de l'article. Et dans le titre d'ailleurs. Donc, l'article explique, la masse musculaire est avantageuse sur certaines épreuves, mais la masse grasse l'est tout autant en fait sur d'autres épreuves, notamment des épreuves de très longue durée. Coucou Courtney Dolwater.
Mais j'aurai toutes mes chances alors.
Ben voilà, mets-toi à l'ultra trail.
Et du coup, est-ce que voilà, c'est pertinent tout le temps ces différences entre masse grasse et masse musculaire, qui sont en fait les mêmes pour expliquer les différences de nombre de verres d'alcool buvé avec modération, on est à la radio, qu'on peut boire, puisque à quantité égale, nous, on a plus d'alcool dans le sang que les messieurs. Je dis ça parce qu'on a tous nos spécialités et moi, c'est l'alcool. Donc là où un gars de mon poids peut boire 3 verres, ben moi, je peux en boire que 2. Mais bon, bref, est-ce que donc cette différence de masse graisseuse, masse musculaire est toujours pertinente pour tous les sports ?
Bah, c'est bien la question que pose l'article en disant peut-être qu'en fait, ces différences biologiques ne sont pas spécialement pertinentes quand il s'agit de, alors là je cite, viser et appuyer sur la détente d'une carabine, mettre une balle de golf dans un trou ou toucher un adversaire avec un fleuret. Donc en gros, c'est pas forcément pertinent de généraliser les catégories sur des critères de sexe dans tous les sports au prétexte que les hommes auraient partout un avantage biologique sur les femmes.
Oui, d'autant plus que là, tu parles du haut niveau. Enfin, dans cet article, on parle du haut niveau, mais que si on élargit, j'imagine bien que quand on considère le commun ou la commune des mortels, il y a encore plus de variabilité entre les êtres humains.
Ben oui, c'est toute la question du « en moyenne », puisqu'en réalité, il y a une grande variabilité qu'on prend rarement en compte. Donc en fait, c'est pas juste de dire « l'ensemble des hommes est plus performant que l'ensemble des femmes ». Certains hommes sont plus performants que certaines femmes dans certains sports et inversement, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Et ça renvoie au fait donc que peut-être en fait ce critère sexué n'est pas le plus pertinent pour faire des catégories. Il y a beaucoup d'autres critères qui rentrent en jeu, et notamment la question de l'entraînement qui devient en fait rapidement un critère prédominant, et le fait de pratiquer régulièrement un sport ou non aussi. Donc là, c'est ce que dit l'article en disant en EPS, au collège ou au lycée, il n'y a pas de raison d'appliquer un barème différent pour les filles et les garçons. Le facteur d'entraînement joue un rôle tellement important pour la performance qu'une fille qui pratique un sport à l'extérieur sera meilleure qu'un garçon qui n'en fait pas du tout. Très vite, c'est ce facteur qui va prendre le dessus sur les déterminants biologiques. Mmh. Donc, question de l'entraînement. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc, c'est que récemment, il y a eu un sondage, on va dire, aux États-Unis, n'importe quoi, au Royaume-Uni, pardon.
Ça parle anglais.
Ça reste anglophone. C'est juste pas du bon côté de la Terre, mais sinon tout va bien. Dans ce sondage, il y avait 12% des hommes britanniques qui estimaient qu'en pratiquant leur meilleur tennis, ils arriveraient à prendre un point à Serena Williams.
Non.
Serena Williams, qui est quand même, ouais, oui. Numéro 1 mondial pendant des années, et dont c'est le métier de jouer au tennis.
Un
donc,
homme
bref.
Sur 10, non mais j'y crois pas, parce que
mais
moi,
oui,
qui ai un peu de masse graisseuse, je connais quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes de mon âge et plus jeunes qui ont beaucoup de masse graisseuse, et Serena Williams.
Je crois qu'on va lancer un
non,
défi là.
C'est tellement prétentieux en fait. Et du coup, bah, il y a eu effectivement un défi sur cette question du tennis et sur cette question de bataille des sexes, entre guillemets, et parce qu'en fait, ce 12% d'hommes britanniques qui estiment qu'ils pourraient prendre un point à Serena Williams, ils sont tout aussi machistes que Bobby Riis, qui s'imaginait qu'il pouvait battre Billie Jean King en 1973, alors que lui-même était retraité et qu'elle était au sommet de sa gloire. Et donc quand même, je rappelle que la Queen King a plié le match en 3-7 gagnant à 0. Voilà, boum.
Eh oui, 6-4, 6-3, 6-3, elle lui avait mis. Il avait quand même 55 ans, mais le gars, il n'avait quand même pas hésité à dire que la meilleure des femmes pourrait jamais le dépasser. Tiens, on se fait un petit plaisir, on écoute la bande-annonce que j'ai un peu raccourcie du film.
Allô ?
Eureka, Billie Jean !
C'est Bobby. Bobby Riggs, écoutez, j'ai une idée géniale.
Le porphalocrate machiste contre la féministe aux jambes poilues. Rien de personnel.
Vous êtes toujours féministe?
Non, je suis une championne de tennis qui se trouve être une femme.
Et nous avons le privilège, nous autres fans de tennis, de recevoir la grande Billie Jean King. La rumeur dit que vous, les filles, vous êtes rebellées.
Vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes.
Les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. C'est biologique.
100 000 dollars à la femme qui battra Bobby Riggs!
Appelle le clown. J'accepte le défi.
En affaires, en sport et ainsi de suite, en haut de l'échelle, c'est l'homme qui domine.
Direct dans 3.
Je vais devenir la meilleure.
2.
Comme ça, je pourrai
1.
Changer les choses. Assez parlé, place au sport.
Mesdames et messieurs, comme on dit, le match show must go on.
1 million de téléspectateurs. La bataille est tant attendue. La bataille des sexes.
Alors, comme tu le disais, c'était en 1973. Le film s'appelle « La bataille des sexes », il date de 2017. Je vous le recommande, c'est ce que j'appelle moins « feel good movie » pour féministes. Il est emballant, enthousiasmant. En plus, Billie Jean King, elle a fait son coming out lesbien. Elle s'est battue toute sa vie pour les droits des femmes dans le sport. Je ne sais pas si tu la connaissais, dit-elle.
Ben non, non, merci de prendre ma place aujourd'hui parce que...
Ben c'est vraiment qu'il y a ce film est super, je sais pas, toi Oxane, tu l'as vu ce film ?
Non, mais ça donne très envie.
Ah ouais, vraiment, vraiment, je vous le recommande ouais. Sincèrement. Et toi Lucie, bien sûr, tu l'as vu ?
Eh ben non, figure-toi que je ne l'ai pas vu.
Non, ah mais faites-vous plaisir les
filles. Je connaissais l'histoire de Billie Jean King, mais je n'ai pas vu le film.
Cathy, je vois que tu as envie de dire quelque chose, vas-y. Non ?
Ah, peut-être, oui. Maintenant ?
Oui.
Alors oui, c'était juste pour dire que j'avais lu, je crois que c'est dans Les couilles sur la table, il y a un chapitre sur le sport et il est dit notamment que bah, les hommes continuent de pulvériser régulièrement des records. C'est juste que nous, bah, on part de plus loin parce qu'on nous a permis de faire du sport que récemment. Donc laissez-nous aussi le temps, les gars.
Tout à fait. Et je ne sais pas d'ailleurs si Lucie, tu l'avais pas... T'allais pas le dire après ou je sais plus. En tout cas, on écoute.
Ça en fait partie, ouais. Ouais.
Bon,
ouais.
Et ben on coupera au montage. Désolée.
Ben non, on coupera pas au montage, pas du
Mais
tout.
Mais non, du tout.
Au contraire, c'est pour dire on est raccord. On a raison, en fait. Vous savez quoi? en a raison dans la titanesque émission. C'est pour ça qu'elle passe à la radio, parce qu'on dit des choses pour vous, pour voir les choses peut-être sous un autre angle ou des choses auxquelles on ne pense pas tous les jours. Alors Lucie, cette chronique sur le sport, la dernière chose que tu voulais aborder, c'est ces fameux 10% de différence entre les meilleures performances féminines et masculines, c'est-à-dire si on est obsédé par la pointe, effectivement, il y a quand même un écart.
Oui, ce qui rejoint tout à fait ce qu'évoquait Cathy, en fait. Je voulais revenir dessus parce que, en fait, au regard de tout ce qu'on s'est dit là, on peut légitimement se demander si ces 10% ils ne sont que biologiques. Et en fait, c'est vraiment délicat de comparer de manière brute les performances des femmes et des hommes, même au plus haut niveau, parce qu'on vit dans une société qui est sexiste. Donc, on ne part pas effectivement du même endroit. Bah oui, bizarrement, surprise. Il a fallu attendre la 27e titanesque émission.
On le dit quand même, il faut qu'on le rappelle de temps en temps, parce que, après tout, si quelqu'un nous prend en route, il faut quand même qu'on rappelle, on vit dans un monde sexiste, oui.
Et oui, on vit dans une société sexiste, et du coup, quand on sait que les filles ont globalement moins accès aux équipements sportifs, que l'investissement dans le sport féminin est moins important que dans le sport masculin, que l'ouverture des compétitions internationales est plus récente pour les femmes que pour les hommes. Je rappelle quand même que c'est en 2012 que les femmes ont pu concourir dans tous les sports aux Jeux Olympiques, donc 2012, c'était pas il y a deux siècles, c'était il y a 10 ans. Que les programmes d'entraînement ne prennent souvent pas en compte les spécificités des femmes. Là, je pense par exemple au cycle menstruel, avec encore cette idée que l'universel, c'est le masculin et c'est neutre. Que davantage de sportifs de haut niveau sont obligés de travailler à côté pour subvenir à leurs besoins. Que les femmes subissent encore fortement la pression des réseaux sociaux, des médias, des sponsors sur leur corps, sur leur féminité. Donc tous ces éléments qui émanent de cette société sexiste, à partir de là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est toutes choses égales par ailleurs ?
Oui, on pourrait même dire que finalement, les meilleures performances des femmes, étant donné les conditions que tu décris, waouh, le jour où on a les mêmes. Mais il y a des messieurs qui devraient avoir un peu peur, en fait.
Mais carrément, on va tout exploser, en fait.
Et on parle même pas des sportives qui ont eu des grossesses et qui se sont fait lâcher par leur sponsor. Il y en a un paquet, et des sportives haut niveau et qui étaient excellentes. Et j'avais un nom en tête que j'ai oublié, mais...
Alison Félix, peut-être.
Exactement.
Ouais, qui a créé sa propre marque, en fait, finalement, de vêtements de sport pour dire à son sponsor que, tu vois, en fait, j'ai pas besoin de toi.
Carrément.
Et alors, donc, cette différence de 10% t'expliquait que, en fait, on ne sait pas du tout s'ils ne sont pas tout simplement expliqués par les différents éléments que tu avais.
Ouais, carrément. En fait, on a très peu d'études sur le sujet, donc on ne sait pas à quel point tous ces facteurs sociaux, économiques, environnementaux influent sur la performance. Mmh. Donc, clairement, en fait, on ne sait pas quelle serait notre performance si on était dans une société purement égalitaire. Mmh. Et en plus, on peut aussi se demander si les différences qu'on qualifie de biologiques, elles sont vraiment naturelles finalement. Et là, en fait, je pensais à des recherches qui avaient été faites notamment par des anthropologues comme Priscille Touraille. Priscille Touraille, en fait, elle émet l'hypothèse que la différence de taille entre les hommes et les femmes, elle procède pas seulement d'une sélection naturelle pour la survie de l'espèce, mais que ça vient en fait aussi de facteurs culturels et en particulier d'un accès différencié à la nourriture. Donc cet accès différencié aurait conduit les femmes à être globalement plus petites que les hommes. Donc on peut aller encore plus loin dans le raisonnement en se disant, est-ce que ce qu'on qualifie de biologique, c'est vraiment naturel, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi du culturel? Alors là, ça se jouerait sur des générations, des milliers, des millions d'années pour le renverser, mais on peut se poser cette question-là. Donc, tout ça pour dire qu'en s'interrogeant sur la non-mixité imposée dans le sport, on s'interroge en fait sur les fondements même du patriarcat, donc cette séparation de l'humanité en deux catégories distinctes et hiérarchisées de sexe et de genre au prétexte d'une soi-disant différence de nature.
See yourself, what you see is a reflection somebody else. Now if you wanna find you, you gotta look underneath that shell. That's where you find true beauty, that of a precious pearl. Don't you know you're beautiful just the way you are?
Maintenant, on va accueillir Nadine Poncept. Et bonjour Nadine.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? J'en dis pas plus, je vais te laisser présenter qui tu es et aussi ton projet, ton superbe projet.
Eh bien, je suis donc Nadine Poncept, j'ai 53 ans. Je suis mariée et maman de deux enfants qui ont respectivement 20 ans et bientôt 27.
Quel est ton parcours par rapport au sport? Donc, ton projet est lié au kitesurf. D'ailleurs, j'ai vu que tu étais originaire de Lyon. Alors, le kitesurf est Lyon?
Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai un passé de sportive, puisque au départ, j'étais partie sur l'enseignement du ski alpin et de la planche à voile, mais il y a une trentaine d'années de ça en arrière. Donc, j'alternais les saisons en passant des moon boots au maillot de bain. Voilà, pour faire simple.
Alors, il paraît que tu te muscles beaucoup une de tes deux cuisses pour ton projet. Est-ce que tu peux nous en parler?
Ben oui, parce qu'en fait, sur cette traversée, il va falloir tenir pendant à peu près 6 heures, enfin entre 6 et 8 heures, et sur la même jambe d'appui. Donc, c'est vrai que pour le coup, y a une prépa physique qui est importante. Je suis d'ailleurs justement en pleine préparation physique avec mon époux. Là, on est dans les Pyrénées, donc on alterne vélo de route avec des beaux cols. On doit faire le Tourmalet d'ailleurs dans sur quelques jours. Et puis, on fait des grosses randonnées aussi pour vraiment faire travailler tous les muscles des cuisses surtout.
C'est quoi cette traversée exactement ?
Cette traversée, ça va être relier le continent à la Corse en partant de grosso modo de Sainte-Maxime jusqu'à Calvi. Donc ça représente 100 000 nautiques. 100 000 nautiques, c'est environ 190 km.
Waouh. Et ça part d'un endroit que je connais bien, c'est le sud de la France, Sainte-Maxime, Fréjus, Saint-Raphaël, le Var. Ah là là.
Et tu sais quand ça sera ?
C'est prévu entre la fenêtre, ça va être prévu entre le 1er mai et le 30 juin 2023. Pourquoi une fenêtre aussi large ? Tout simplement parce que...
La météo ?
Je fais appel à un routeur météo. Un routeur météo, c'est un expert météo qui a une capacité et surtout des compétences pour pouvoir analyser des fichiers très 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 précis et qui va pouvoir me faire partir sur une fenêtre que j'ai au préalable définie pour surtout ne pas mettre en difficulté ma sécurité et puis surtout celle des personnes qui seront à bord et qui vont me suivre, hein, puisque je vais avoir un bateau de sécu avec deux pilotes et puis... une équipe de caméramans embarqués, un photographe et puis mon époux qui va être là aussi pour assurer ma sécurité en cas de problème. Donc voilà, donc du coup on est un petit peu à l'écoute du vent, on est un peu tributaire dans cette discipline du facteur météo.
Et est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce projet te porte à cœur ?
Ce projet, une porte à cœur, en fait, ça fait un certain nombre d'années déjà que j'avais en projet dans ma tête de réaliser cette traversée, parce que je suis déjà une femme de défi. Et je voulais le faire à l'époque en planche à voile. Et puis bon, les années passant, les enfants étant aussi assez chronophages, entre-temps, je suis passée sur la discipline du kite. Et puis, les enfants sont partis, ont quitté le nid maintenant, donc j'ai aussi du temps pour le préparer, parce que ça demande pas mal de temps pour la recherche de partenaires, pour toute la mise en place de tout ce qu'il y a à prévoir. Mais surtout parce que j'ai eu un parcours de vie un petit peu chaotique, un petit peu compliqué, avec des phénomènes de violence dans ma vie de couple précédemment. Et malheureusement, j'ai été aussi abîmée physiquement, psychologiquement. Et j'avais aussi besoin de me reconstruire aussi par rapport à ça. Donc elle a aussi une vertu thérapeutique, mais c'est aussi surtout pour venir soutenir fortement la cause des femmes qui sont victimes de violence et les enfants, qu'il ne faut pas oublier, hein, parce que ce sont des victimes collatérales. J'ai malheureusement moi aussi un enfant qui a été abîmé par un compagnon. Et c'est une plaie qui s'est jamais complètement refermée, parce que c'est des choses qu'on n'oublie pas, pour lesquelles je me suis aussi beaucoup battue sur des procédures pénales qui malheureusement n'ont pas abouti, où mon enfant n'a pas été reconnu comme victime. Donc c'est une plaie qui a été béante, qui s'est refermée petit à petit, parce que il y a eu une reconstruction qui a été en grande partie par mon mari, avec qui je partage ma vie depuis plus de 15 ans maintenant, et puis surtout par rapport au sport. Donc je veux sensibiliser au maximum le public, parce que il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de situations de violence, des enfants aussi. Et pour ça, je souhaite derrière ce défi, il y a un double défi en fait, hein, mobiliser le plus grand nombre et récolter un maximum de dons au profit de la Fondation des Femmes.
Et alors, comment est-ce qu'on peut t'aider, nous ou toutes les personnes qui nous écoutent ?
Alors moi aujourd'hui, je suis donc la présidente d'une association que j'ai créée qui s'appelle Des Ailes pour Elles. Qu'on peut retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc sur Insta, sur Facebook. Et puis en allant sur le site, de toute façon, il y a le lien de la cagnotte de la Fondation des Femmes, hein, pour pouvoir que tout un chacun puisse se mobiliser. Donc il n'y a pas de petits et de gros dons, hein, il y a surtout une mobilisation importante, quel que soit le public, et parce que toutes les couches sociales, tous les publics sont concernés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la violence, elle est surtout sur deux segments importants, hein, qui sont les 18-25 ans et puis les plus de 60 ans, contrairement à ce qu'on peut, on peut imaginer. Mm. Donc voilà, la violence, elle n'est pas que physique, hein, c'est pas forcément prendre des coups, mais la violence psychologique, elle est très compliquée, elle est très sournoise, elle est très insidieuse et on met beaucoup de temps à se réparer de tout ça.
Que tu sais, Nadine, que la Titanesque émission, bah, ça vient de Titane, l'association Titane à Valence, que je préside avec d'autres personnes qui ont déjà fait les stages. Et ce que tu dis, on est tellement 100% d'accord, on le sait toutes, justement, c'est une des choses qu'on sait quand on est féministe, c'est que les violences sur les femmes et les enfants, elles n'ont pas d'âge. Pour les auteurs, elles n'ont pas de classe sociale, elles n'ont pas de couleur de peau, contrairement à ce que diffuse l'extrême droite. Et je le dis là parce que sur Valence, il y a une présence qui est notable avec un discours qui dirait que ça serait les personnes immigrées qui exerceraient des violences sur les femmes. Donc toi, tu sais que non, moi je sais que non, Cathy sait que non, dit-elle, c'est que non. On est beaucoup autour de la table à savoir que malheureusement, s'il y a qu'un seul gros point commun aux auteurs de violences sur les femmes et les enfants, bah, c'est que c'est des hommes.
Et oui, souvent pas de justice.
Vous avez raison de le souligner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, plus on monte dans les hautes sphères sociales, et plus c'est compliqué pour ces femmes qui sont déjà, on est habité par la honte quand on vit ce genre de situation. Mmh. Mais quand on est dans ces couches sociales, c'est encore plus compliqué, puisque derrière, il y a des attitudes qui sont très camouflées. Hein. On retrouve aussi ce genre de situation un peu aussi sur les problèmes d'inceste.
Oui.
Hein, donc on le voit aujourd'hui, hein, dans tout ce qui paraît aussi au niveau des médias. Voilà, plus on est dans ces hautes sphères, plus c'est compliqué. Et même la parole des fois de 10 personnes face à des personnalités connues et reconnues.
Et puis la classe sociale et l'avantage d'avoir de l'argent dans ce genre de combat aussi, hein, parce que...
Oui, c'est plus facile d'être défendu par un bon avocat quand on est l'auteur. La femme souvent a des revenus inférieurs. Enfin bon, voilà, c'est pas... Enfin, le but, c'est pas de dire que la situation des femmes de classe sociale élevée serait plus difficile que celle de classe sociale moins favorisée, parce que...
Celles qui n'ont pas l'argent non plus, elles
voilà.
Se défendre, donc on est bien d'accord.
Je regarde Cathy avec mes grands yeux ouverts.
Question, c'est juste, je voulais juste vraiment souligner le fait que, en plus, les institutions sont elles-mêmes d'une grande violence, en fait. Moi, pour avoir aussi vécu et tenté de faire aussi comprendre à la justice qu'un de mes enfants avait aussi été victime, ça a été beaucoup d'humiliation et beaucoup de violence subie par l'institution, par les policiers et après par les juges et les avocats.
Oui, et presque en tant que femme, ça nous fait encore plus mal de voir que notre enfant n'est pas entendu. Parce qu'on se dit, moi j'encaisse, moi j'ai fait certains choix, etc. Enfin, vous me dites si je me trompe, hein, je parle de ce que je pense, mais c'est peut-être pas votre ressenti. Mais alors, quand on dit à son... Enfin, on espère que pour son enfant, justice va être faite et qu'elle n'est pas faite, ça met la rage.
Ben, c'est la plus grosse violence. Moi, c'est en fait, on va dire que j'ai mis plus de 10 ans à me reconstruire par rapport à ça. Parce que c'est vrai que vous avez raison de le souligner, on est bafoué par cette justice, on est culpabilisé de ne pas avoir agi, de ne pas avoir réagi. Mais bon, on n'est pas non plus... dans le secret des dieux, hein, quand les choses se passent, malheureusement, elles se passent pas forcément quand vous êtes là. Donc c'est compliqué d'aller apporter la preuve. Mais derrière, c'est vrai qu'on a une justice à deux niveaux, quoi. C'est-à-dire que la parole de l'enfant n'est pas entendue. Bon, en plus, moi, au moment de l'affaire pour mon fils, il y a eu l'affaire Outreau qui est sortie. Donc, la parole de l'enfant, elle a été complètement mise de côté.
Ah, mais clairement, Outreau est une... Enfin, de tous les gens qui travaillent dans le champ de la protection de l'enfance, disent que l'affaire d'Outreau a été une catastrophe. Parce que derrière, ça a été extrêmement utilisé par les auteurs de toutes sortes, auteurs et autrices, puisqu'en matière d'inceste, il y a aussi des autrices. Et ça a été extrêmement utilisé pour dénier totalement la parole des enfants. Et qu'est-ce qui reste à un enfant que même la justice ne croit pas ?
Ce que je pourrais ajouter, c'est que, ben, en fait, aujourd'hui, mon objectif, il est aussi que la parole, elle se libère, hein, chez tout un chacun, chez toute un chacune. C'est vrai que, bon, moi, je suis une femme qu'on voit qui est carrée d'épaule, qui est musclée. Donc, on se dit, mais comment est-ce possible qu'on ait pu t'atteindre, qu'on ait pu te toucher, qu'on ait pu te faire du mal? Bah oui, mais ça arrive à tout le monde, en fait. Et le fait de pouvoir relayer cette parole-là, bah, derrière, c'est aussi donner la possibilité à toutes ces femmes qui sont dans l'ombre, qui ont peur de parler, qui ont peur de partir. Et déjà, d'en parler, bah, c'est déjà un premier chemin vers la guérison, quoi.
Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que te voir envisager, si la météo est favorable, de traverser la mer Méditerranée du continent à la Corse, et ben on se dit, on peut s'en sortir.
Oui, c'est ça, exactement. C'est aussi apporter, voilà, c'est aussi ce que je veux transmettre à travers ce projet, c'est que la reconstruction, elle est possible, que le sport, c'est un super vecteur de reconstruction, c'est, voilà, c'est apporter aussi du positif, hein. C'est la vie, elle continue, en fait, hein. C'est pas il y a l'avant, il y a l'après, la vie, elle se poursuit, elle est faite d'obstacles, et puis ben tout est surmontable, on peut arriver à, comme dit ce proverbe, et je pense qu'on pourra en rester là-dessus, c'est que tout ce qui tue part rend plus fort. Et moi, ça m'a rendu forte, encore plus forte qu'avant. Et j'oublie pas non plus tout le soutien que j'ai pu avoir de la famille, des amis, de mon mari, de mes enfants, de toutes ces personnes aujourd'hui qui me soutiennent aussi dans ce projet, parce que ça a aussi une vertu très thérapeutique, hein. Ça va être mon dernier combat, mon ultime combat, je pense. Je vais combattre la mer, et c'est quelque part. C'est un clin d'œil à tous les éléments naturels avec lesquels je vais être obligée de composer. Ben ça fait partie de la vie, c'est comme ça.
En tout cas, on te souhaite plein de courage pour ce projet. Et puis surtout, on n'en parle pas souvent, mais il y a en effet le jour J. Mais il y a aussi toute la préparation avant. Et là, on rentre dans la phase d'hiver. Donc c'est quand même une phase, quand on fait du sport, qui est un peu plus difficile quand même qu'aller courir ou faire du vélo en plein été au soleil. Donc bravo pour ça. Et on a hâte de te retrouver l'année prochaine sur cet événement.
Bah, moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est qu'on soit prévenu suffisamment longtemps à l'avance pour prendre notre bagnole et descendre saluer ton départ. Ça serait super, mais il faut qu'on le sache quand même une journée avant, quoi. Je ne sais pas si tu le sauras aussi longtemps que ça ou pas.
Normalement, alors pour info, il peut y avoir des faux départs, mais théoriquement, je vais être prévenue 8 jours avant. Et confirmé 3 jours avant.
Eh ben, c'est parfait, on aura le temps de réserver une petite tarte tropézienne à Sainte-Maxime.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Salut.
Merci beaucoup, Nadine.
listen up, voices scatter, 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 listen up, voices scatter.
The boys wanna be heard, the girls wanna be heard.
C'était Boys Wanna Be Her, donc c'est la contraction de Would Be, hein, pour ceux qui voudraient apprendre un peu l'anglais, des Peaches. Et donc à Valence, il se passe quelque chose le 25 novembre, un peu en relation avec ce qu'on vient de dire avec Nadine Poncept. Cathy, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, on organise un rassemblement. Donc le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On parle aussi des violences sexistes et sexuelles, plus particulièrement, et aussi envers toutes les personnes oppressées par le patriarcat. Alors, cette année, nous voulons insister sur la capacité des femmes et de toutes les personnes oppressées à combattre, à ne pas être uniquement vues comme des victimes, à ne pas se considérer comme des victimes. On peut s'inspirer des Iraniennes et des Afghanes en ce moment, qui luttent contre les hommes qui tentent de les reléguer dans la maison. Et voilà, on sait tous ce qui se passe en ce moment en Iran. Un petit rappel aussi, le 25 novembre a été choisi en mémoire des sœurs Mirabal, qui sont trois sœurs qui ont lutté contre la dictature en République dominicaine et qui ont été assassinées le 25 novembre 1960. Donc les féministes ont choisi cette date dans les années 80, voilà, pour rappeler qu'il y a régulièrement des violences faites aux femmes, tout le temps même. Et ça a été ratifié, entre guillemets, uniquement en 1999, cette date. Donc de temps en temps, les féministes effectivement doivent prendre le taureau par les cornes et imposer des choses et pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Les hommes ne nous laisseront pas la place, hein, si on ne lutte pas.
C'est voilà. Pour ça qu'on existe encore. Souvent, les gens nous demandent, Lucie, je pense que ça t'arrive aussi, hein, mais pourquoi encore des féministes en 2022 ? Bah, parce que en 2022, on est toujours dans une situation catastrophique en termes de violences faites aux femmes, mais aussi d'égalité des sexes de manière générale. On va y revenir encore dans quelques secondes à propos du sport. Mais je te laisse finir parce que là, on parle politique, c'est beaucoup plus important. On parle de femmes qui sont mortes à cause de leurs engagements politiques. Enfin, en raison.
Oui, là, les sœurs Mirabal, juste pour la petite histoire, le dictateur était tombé amoureux d'une des sœurs, mais bon, elle l'a repoussé et il n'a jamais supporté. Voilà. Donc elles ont combattu, elles étaient résistantes en fait avec leur mari, elles ont combattu toute leur vie et il a fini par les faire tuer en fait. Et voilà, et donc, souvenons-nous d'elles. Oui. Il faut aussi s'inspirer donc, de toutes ces femmes qui continuent de lutter partout pour leurs droits. Et rassemblement le 25 novembre, c'est un vendredi, à 18h, place Saint-Jean. On a proposé à quelques collectifs de venir avec des tables de presse pour parler d'elles et pour qu'on s'organise en fait. Rassemblons-nous, organisons-nous. N'attendons pas des institutions qu'elles changent les choses.
Message de la France d'en bas à la France d'en haut, ce n'est pas la rue qui gouverne, mais c'est la rue qui essuie la morve de tes gamins, qui essaie de leur apprendre à lire, à compter et à écrire. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman qui lui change ses pansements. C'est la rue qui conduit le train qui t'emmène en vacances, le bus et le métro que tu ne dois pas prendre souvent. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant où tu déjeunes de quelques bons plats préparés par la rue. C'est la rue qui achemine ton courrier, qui répare tes câbles, tes tuyaux qui font que tu peux prendre un bon pain chaud. La rue qui se lève tôt pour que tu aies du pain frais, un café et un journal. La rue qui ramasse les poubelles, nettoie tes bureaux, fabrique ta prochaine voiture de fonction, installe ton matelas et ton parasol, répond au téléphone, approvisionne les rayons, tape tes discours, taille la haie, photocopie, balaie, ausculte, t'attends, épluche, emballe, graisse, passe, repasse, arrose. Salaire de ministre, augmentation de 70% comprise. La rue qui cotisera pour ta retraite de ministre. Et parfois on se demande bien pourquoi, c'est la rue qui vote. Je le dis avec une grande humanité, mais je le dis avec une grande fermeté. Je suis dans la rue, j'y suis bien, et je t'emmerde. Je suis dans la rue, j'y suis bien, et je qui se leur apprendra à les raconter et à écrire. C'est la rue qui se déplace 5 fois la nuit pour amener le bassin à ta vieille maman et qui lui change ses pansements. C'est la rue qui fait le planton des heures devant le restaurant du déjeuner de quelques bons plats préparés par
Je vous fais écouter un extrait toujours de ce film La bataille des sexes, qui ne porte pas du tout sur des questions de violence, mais écoutez l'argumentaire par lequel les messieurs de la Fédération de tennis rétorquent à Billie Jean King, qui est venu négocier un salaire égal sur les matchs de tennis. Écoutez ce qu'ils disent et vous me direz, dit-elle, Cathy, Oxane, Lucie, votre avis.
Ce communiqué de presse.
Ah oui.
Il est écrit ici que vous offrez 12 000 dollars aux hommes et que vous offrez 1 500 dollars aux femmes, exact?
Ce sont les conditions, en effet.
Le prix masculin doit être élevé pour attirer les meilleurs joueurs. Nous voulons en faire le tournoi le plus prestigieux d'Amérique.
Et payer les femmes au lance-pierre, ça le rend plus prestigieux?
C'est tout simplement aussi pour nous une question de
et moyens. Et le public paye pour voir les hommes jouer. Mmh. Ce sont eux, l'attrait.
Ils sont 8 fois plus attrayants?
Pardon?
D'après mes calculs, vous offrez 8 fois plus aux hommes qu'aux femmes. On fait 8 fois moins de spectateurs.
Je ne connais pas les pourcentages, mais...
On a vendu le même nombre de billets pour la finale dames que pour la finale messieurs. C'est pas vrai, Jack?
Aujourd'hui, oui, c'est pas faux, en effet.
Même recette, même prime. Logique, il me semble.
Oh, soyons raisonnables, voyons, nous n'avons pas les moyens de faire une chose pareille.
Comment vous justifiez ça?
Eh bien, d'abord, les hommes ont une famille à entretenir. Maintenant, pour en revenir...
Je suis le principal soutien de famille chez moi.
Oui. Oui. Écoutez, les hommes sont tout simplement plus captivants à voir jouer. Ils sont plus rapides.
C'est un fait.
Plus puissants.
Un fait.
Et ils sont plus combatifs.
Juste un fait.
Ce n'est pas votre faute, c'est biologique.
C'est pas la question. On vend le même nombre de billets.
Oui, mais je suis désolé, c'est inenvisageable.
Waouh, ben ça me fait vraiment penser, je pense, au sport où on voit le plus de disparités, c'est-à-dire le foot. Il y a le foot masculin, avec des salaires faramineux, et le foot féminin. Il y a quand même une histoire sur le foot féminin. Je veux dire, la plupart des gens qui suivent le foot masculin, et très peu le foot féminin. On peut se poser la question de pourquoi. Je crois pas que les femmes jouent moins bien que les hommes. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'entendre cet extrait et de le comparer à ce qu'on peut voir, par exemple, au foot, ouais.
Lucie?
Ouais, je rebondis complètement sur ce que dit dit-elle par rapport au foot, parce que dans le foot, il y a vraiment eu cette même mauvaise foi, en fait, où on voit qu'ils sont poussés dans leur retranchement et finalement, ils savent plus quoi dire parce que c'est totalement absurde comme raisonnement, avec les footballeuses américaines qui avaient des résultats, mais nettement meilleurs, en fait, que les équipes masculines et qui, pour autant, n'ont obtenu l'égalité de salaire que cette année ou l'année dernière, en fait.
Oui, et ça me rappelle aussi dans le numéro spécial de Cosette où j'ai lu que la pratique du foot en France a carrément été interdite aux femmes entre 1930 et 1970. Et là, ça se recolle aussi avec ce que tu dis, c'est-à-dire comment réunir des spectateurs quand tu n'as même pas le droit de jouer. Donc déjà, avant les années 70, c'était impossible. Donc on revient de très très loin quand on est... Quand on joue au foot aujourd'hui, comme tu l'expliquais.
Et on est encore loin des US, parce que là, en France, on ne fait toujours pas autant d'audience pour les femmes. Et y a une, je ne sais pas exactement quelle est la raison, mais aujourd'hui, le foot féminin est discrédité par rapport au foot masculin en France.
Alors, je sais pas, là, il faudrait que j'interviewe mon propre fils qui est fan de foot, mais je lis aussi toujours dans ce numéro de Cosette qu'on s'est rendu compte qu'il y avait 20% de plus de temps d'effectifs de jeu dans le foot féminin que dans le foot masculin. Tu confirmes, Lucie ?
Alors, je ne sais pas. Là, pour le coup, je fais confiance à Cosette, si Cosette le dit.
Et tu regardes les deux types de matchs, toi, ou tu regardes que le foot féminin ? Comment tu fais ? Dans tes,
Si, moi, ça m'arrive de regarder. Alors, le foot, c'est pas le sport que je regarde le plus, mais je regarde à la fois du foot féminin et du foot masculin. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, il n'y a pas toutes ces petites interruptions de je vais me rouler par terre parce que je me suis fait trop mal, parce qu'il m'a taclé dans le foot féminin. En fait, il n'y a pas ça.
Et moi, ce qui me fait le plus peur dans. Alors, c'est pas forcément vrai ce que je veux dire pour le foot féminin, mais sur le foot masculin, c'est l'image qu'on donne à tous les jeunes dans le
tu
pays
veux dire
qui suivent.
De tricher, de tout ça.
Oui, et puis si on recolle aux violences, on a pas mal d'exemples de footballeurs.
Auteurs de violences, tu veux dire. Oui, ils sont ni pires ni meilleurs que les autres, en fait. Hein.
Sauf que par contre, ils sont idéolâtrés par les, ouais, par les jeunes.
C'est des modèles, tout à fait. Est-ce que vous pensez que, en fait, les femmes, si les compétitions étaient mixtes, pourraient très bien mettre, enfin, certaines femmes pourraient très bien battre les hommes ou certains hommes et gagner des championnats, et qu'en fait, il serait possible que l'argument de la non-mixité soit un argument non pas de protection des femmes, mais des hommes, chez qui, pour nous, c'est encore une honte de se faire battre par une femme.
Là, je trouve ça super intéressant comme point de vue et je pense qu'on n'est pas forcément loin d'une certaine vérité. Ouais. Et puis, alors, si on reste un peu dans les standards, la femme qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, etc. Et donc, il y a moins de temps pour s'entraîner. Et on revient à ce que disait Lucie tout au début de l'émission, c'est plutôt lié à l'entraînement. Si on laissait plus de chance aux femmes d'avoir du temps pour s'entraîner, je pense qu'on serait assez surpris des résultats.
Ouais, moi je suis assez d'accord que ils ont un peu la trouille en fait. Mais que tant qu'on n'est pas dans une société égalitaire où on va vers ce que dit dit-elle, à savoir laisser autant de temps aux femmes qu'aux hommes de s'entraîner et avoir les mêmes conditions, etc. Ce sera malheureusement difficile d'atteindre les mêmes performances.
Et alors toi, Oxane, toi qui es au collège cette année, est-ce que le sport est mixte ou est-ce que le sport est séparé ? Comment ça se passe ?
Je suis en train de réfléchir là. Ben, en fait, il y a juste un terrain de foot. Mmh. Et maintenant que j'y pense, il y a quelques filles juste qui jouent des fois. Mais après, c'est surtout des garçons. Mais après, il y a le vendredi, il y a sport. Et là, c'est vraiment mixte.
Mmh. Et là, tu as l'impression que les garçons sont plus forts que les filles, que ça dépend des cas et des sports, ou tu vois vraiment une différence ? Là, comme ça, à 13 ans, dans ton collège ?
Je pense pas qu'il y ait vraiment de différence.
Moi, je me rappelle quand j'étais au collège qu'il y avait en effet un barème, notamment en athlétisme, plus élevé pour les garçons. Et donc, quand un garçon avait une certaine note, c'était pas du tout la même chose pour les filles.
must be some kind of way out of here.
Coucou Oksane, bah c'est à toi. Alors là, écoute, j'imagine que ton livre ne parle pas de sport. Ou alors,
pas vraiment dans le thème.
T'es pas vraiment dans le thème. Alors, on va découvrir sur quel thème. Tu vas nous parler d'un livre ou d'un film ou...
Un livre qui a été adapté en série.
Waouh, wow, ça j'aime bien. On peut à la fois se faire plaisir dans son lit le soir et à la fois regarder une série toute la journée si on a envie. T'as vu, je respecte les horaires officiels des gens de 13 ans, donc.
Alors, ce roman me tient beaucoup à cœur car ça parle d'un jeune homme gay. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce livre s'intitule Heartstopper. Ça se passe en Angleterre, ça parle donc de Charlie Spring ayant déjà fait son coming out à son entourage et à son lycée, exclusivement de garçons, bien que sans faire exprès. Et s'est malheureusement fait harceler. Un jour, il rencontre un garçon de seconde qui fait du rugby.
Un peu de sport quand même, finalement. Mais on est en Angleterre, ils font tous du sport là-bas au collège.
Traîne avec tous les gars les plus hétéros du lycée, et donc tout le monde, y compris lui-même, pense qu'il est également hétéro. Le problème, c'est que Charlie a le béguin pour lui. Mais Nick va réaliser que lui aussi a le béguin pour Charlie, ce qui remet en cause son hétérosexualité. Vont-ils réussir à vivre leur histoire d'amour malgré les préjugés? Dans cette histoire, il y a aussi d'autres jeunes LGBTQIA+. Il parle beaucoup d'une amie de Charlie qui est trans et qui était à la base dans l'école pour garçons et qui a réussi à aller dans celle pour filles. En plus, le personnage est interprété par une femme trans dans la série. À la fin du tome 2, il y a aussi une histoire bonus sur le début de l'histoire d'amour des copines de Charlie. Et maintenant, un petit extrait du mot de l'autrice.
Heartstopper se focalise en grande partie sur Nick et son coming out dans ce tome. J'ai pour but d'écrire le genre d'histoire que j'aurais aimé trouver quand j'étais ado. Tout le monde mérite du temps, de l'espace et du soutien pour découvrir qui il est et ce qu'il ressent. Mais même si vous n'avez pas de partenaire à vos côtés, comme Charlie, de parents aimants, comme la mère de Nick, ou rien qu'un chien adorable comme Nelly à câliner quand les choses se corsent, je vous promets qu'un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous aimera comme vous êtes.
Il y a 4 tomes et la série est disponible sur Netflix et elle est très fidèle au roman. Ce qui est super aussi dans ce livre, c'est que ça montre que les personnes LGBTQIA+, parviennent à être heureuses, eux, malgré les complications créées par le système.
Oui, c'est vrai qu'on est dans une société où c'est quand même difficile, en particulier quand on est jeune, de dire qu'on n'est pas hétérosexuel, parce que, en fait, peu importe ce qu'on est, mais c'est juste pas la norme, quoi. Voilà.
Ah bon, pas du tout.
Dit-elle. Tu es ironique, tu te moques de moi. Mais c'est vrai, je le dis parce que j'ai l'impression que là aussi, en matière de lutte contre l'homophobie, un peu comme en matière de lutte contre le sexisme ou contre le racisme, on entend parfois « Oh, mais aujourd'hui, il n'y a plus de problème. On peut être gay ou lesbienne ou, non, ou bi, comme on veut. »
Et c'est complètement faux. Et il y a aussi, d'ailleurs, on ne l'a pas abordé, mais la transphobie, et qui est très présente dans le sport.
Oui,
justement.
Oui, c'est vrai.
J'ai l'impression que dans la nouvelle génération, il y a une question sur le genre et aussi sur l'orientation sexuelle qui est abordée de manière totalement différente de nos générations, antérieures. En fait, je ne sais même pas s'il y a encore des questions dans la nouvelle génération. Il y a quelque chose d'assez différent, je trouve.
D'ailleurs, la série et le livre Heartstopper sont assez optimistes, sans diluer non plus les problèmes des stéréotypes, etc. Ça reste quelque chose d'assez optimiste.
D'accord, donc ça énonce les problèmes, mais ça dit qu'on peut vivre heureux.
Exactement.
J'adore. Est-ce qu'on peut peut-être épeler comment s'écrit le titre?
Alors, H-E-A-R-T-S-T-O. O-P-E-R.
Merci Oksane, salut, au mois prochain.
Salut.
Merci Cathy, à la prochaine.
Au revoir.
Et puis dit-elle.
Eh ben on se revoit très vite.
Eh ben
demain,
oui.
Après-demain.
Oh bah ouais. Salut.
Salut.